Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur Radio Grenouille pour une émission aujourd'hui consacrée à la 11e édition du festival Préavis de désordre urbain, le festival international de performance dans l'espace public qui revient déranger, perturber, secouer la cité du 13 au 24 septembre prochain. Depuis 2007, le festival Laboratoire Préavis de désordre urbain conjugue chaque année performance et expérimentation dans l'espace public. Le festival invite cette année une dizaine d'artistes français, camerounais, haïtiens, belges, brésiliens ou hollandais, tous issus de la planète performance mais aussi du théâtre, de la danse, des arts urbains et des arts visuels. Ils vont tous investir Marseille et construire un dialogue entre l'art et la cité en deux temps, la friche et puis le cœur de ville. Avec le festival Préavis de désordre urbain, depuis sa création, oui, ce festival est résolument en prise avec les problématiques du monde contemporain. Vous les avez déjà peut-être croisées dans la rue. Ils assument la prise de risque, l'expérimentation et les actions poétiques et subversives. Alors cette année, le festival vous invite pour 12 jours de partage d'expériences artistiques dans une installation nomade et immersive autour de la question de l'hospitalité, de ces questions et surtout de la grande et belle Tour de Babel. Avec nous aujourd'hui pour tout savoir de ce que cette 11e édition nous et vous réserve, Christine Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes la directrice artistique du festival Préavis de désordre urbain et puis aux manettes de Red Plexus qui mène et qui construit ce festival depuis 10 ans maintenant. Red Plexus qu'on pourrait décrire comme un réseau international d'échange, de diffusion.
Des nouvelles écritures de la performance.
Oui. D'expérimentation, de la recherche, de la réflexion, enfin un bon bouillon d'expérimentation, Red Plexus. Avec nous aussi, Rojdi Laribi, bonjour.
Bonjour.
Vous, on vous connaît au sein de la compagnie Ornicar et quand même dans l'organisation aussi de Préavis de désordre urbain, soyez le bienvenu. Et puis avec nous aujourd'hui, Samuel Wall, bonjour à vous aussi.
Bonjour, Samuel Wall.
Wall, ok, c'était une chance sur deux. Vous êtes l'auteur du livre Préavis de désordre urbain, la performance à l'épreuve de la ville, un livre qui revient donc sur les 10 ans d'engagement et de prise de risque du festival, un livre attendu pour l'ouverture du festival ou le 21 septembre ? Je ne suis pas sûre de mes infos.
En fait, le livre va être présenté le 13 septembre pendant le festival. Il sortira après le 21 septembre en librairie, mais à Marseille, en avant-première, on l'aura le 13 septembre.
Alors en attendant, on l'a en avant-première dans les studios de Radio Grenouille. On va prendre le temps de le feuilleter ensemble et de revenir surtout sur toutes les questions qu'il aborde. Mais avant de dérouler aussi cette programmation de cette 11e édition, je me demandais, c'est quoi pour vous l'essence de la performance, cet art d'intervention, d'indiscipline, c'est quoi une bonne performance aussi pour vous, Christine Bouvier?
Waouh. L'essence de la performance. Pour moi déjà, la performance, c'est une... Alors, il y a une définition quand même qui me plaît beaucoup, donc je vais pas résister à vous la donner. C'est une action artistique qui se déroule dans un contexte tout en le changeant et en étant transformé par lui. Et donc ça, pour moi, c'est très important parce qu'effectivement, une performance, c'est ce que je dis à un moment dans le bouquin, en ouverture, pardon, parce que le bouquin, c'est pas moi, mais en ouverture, dans mon texte d'ouverture du bouquin.
Et oui, on vous retrouve dans l'introduction.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'une performance, donc c'est une action qui ne sera jamais tout à fait la même, par exemple, si elle se déroule alors ici à Marseille, que ça soit à Noailles ou que ça soit au 5 Avenue ou je sais pas au Roucas Blanc, ça sera pas la même. Comme ça sera pas la même non plus si elle se déroule à Marseille, à Helsinki ou ailleurs. Donc c'est quand même après c'est une action qui tient compte du contexte et ça c'est quand même quelque chose de très important pour moi.
Et c'est quoi alors une bonne performance? Rojdi Larribi, peut-être que vous avez une réponse, vous qui en faites souvent en tant que performeur.
Une bonne performance, c'est comme une bonne œuvre d'art, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous transforme. Donc, nous, dans la performance, on est assez influencé par le mouvement Fluxus, où l'idée, c'est que l'art, c'est la vie. Et on est quand même, malgré tout, d'indécrottables utopistes qui pensent que l'art a quand même comme mission de changer la vie. Et donc, chaque performance qui permet de nous transformer, de transformer finalement notre vie en œuvre d'art, c'est une bonne performance.
Une bonne performance, c'est aussi une performance qui questionne et qui, même, qui déstabilise. Pour moi, je veux dire... C'est pas parce qu'on déstabilise qu'on est forcément bon, mais une performance qui, je dirais, qui laisse complètement lisse, je sais pas si c'est une bonne performance.
Et qu'est-ce qui se joue, selon vous, vous trois, dans la performance aujourd'hui, là, en 2017, dans le contexte social, économique, politique qu'on connaît, sans limite, dans n'importe quel contexte, qu'est-ce qui se joue, en tout cas, dans la performance aujourd'hui, ou peut-être cette année pour vous en particulier, qu'est-ce qui se joue dans ces actions dans l'espace public
Cette année, on a historiquement eu des difficultés à monter le cadre du festival dans l'espace public. Parce que, comme disait Christine, la performance, c'est un art du contexte. C'est le fait de pouvoir... s'immiscer et proposer en contexte des propositions artistiques qui vont du coup être influencées et transformées dans le contexte. C'est vrai qu'on se trouve actuellement dans une situation d'état d'urgence avec toute une réorganisation finalement de la société autour de normes de sécurité, de protection qui font qu'on sent clairement que l'espace public dans ce rapport artistique est en train de devenir une sorte de lieux fermés. Et donc, la difficulté maintenant en tant qu'artiste d'intervenir dans l'espace public en contexte devient énorme. Donc, en fait, un des enjeux pour nous du festival, c'est entre autres comment s'adapter finalement à cette nouvelle donne et comment réinventer peut-être des protocoles d'action à l'intérieur de l'espace public qui permettent finalement aux propositions artistiques d'être autre chose que des formes de divertissement.
Et d'où l'importance aussi de sortir la performance des centres d'art et des musées et de la propulser et de l'affirmer au cœur de l'espace public, non ?
Exactement. Et puis dans la performance, il y a aussi un aspect one shot, donc quelque chose qui n'a pas vocation à se reproduire, c'est-à-dire quelque chose qui va être magnifié par l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une sorte de configuration qui est unique, et donc la performance tient dans cette configuration à cette unicité et donc ça c'est quand même quelque chose d'essentiel quoi.
Alors chaque année vous tricotez, reliez votre programmation dans fil rouge. Cette année vous posez, mais vous nous la posez aussi, une double question. Après la question de la résistance, la question des frontières sur les éditions précédentes, vous nous posez donc cette double question: quels rituels urbains d'hospitalité radicale et poétique pouvons-nous inventer, et pouvons-nous résister par nos actes artistiques à ce climat ambiant entretenu par la peur de l'autre et le retour des frontières? Bon, cette question je vous la pose. Cette double question.
Nous on se la pose aussi. Donc, c'est vrai que on a eu envie cette année d'axer les projets et les propositions autour de cette question. Et du coup, à la fois les artistes arrivent avec un projet qui explore cette question de manière évidemment très très libre, hein, ça c'est clair. Et puis aussi, du coup, dans la conception de ce préavis, on a eu envie, de l'axer sur des moments... préavis, du coup, ce sont des moments de partage. Et des moments de partage artistique, ça c'est clair, avec des expériences fortes. Mais des moments aussi, des moments de partage de vie citoyenne dans l'espace public. Et ça, c'est particulièrement important pour nous depuis longtemps. Et surtout, ça résonne encore plus cette année où c'est encore plus difficile quand même d'être dans l'espace public au niveau de la sécurité, etc.
Au niveau de l'organisation, vous avez dû modifier des choses ?
Ouais. Ben oui, oui, parce qu'au départ, on voulait être au Vieux-Port, sous l'Ombrière, parce que l'année dernière, on a eu deux soirées magnifiques sur le Vieux-Port, magnifiques par les performances qui étaient présentées, mais magnifiques aussi par le nombre de personnes qui sont venues, qui étaient là par hasard ou qui étaient là parce qu'elles étaient venues pour préavis, et notamment beaucoup de gens du quartier, beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout l'habitude et qui n'avaient jamais vu de performance de leur vie. Et ça a été des moments, je pense, forts pour nous et pour eux. Et on voulait, donc moi, on avait l'intention de retourner sur le Vieux-Port. Et en fait, cette année, il y a quand même eu des lois qui sont passées, qui un peu assez rigides. Et donc, on nous a demandé, en fait, en gros, de sécuriser le Vieux-Port si on voulait performer dessus. Donc, et sécuriser, ça voulait dire un budget important alloué aux trois poids lourds et aux chauffeurs, etc. Et moi, c'est évident que déjà, j'avais pas ce budget-là. Et puis même, de toute façon, pour moi, c'était un non-sens dans préavis de mettre un budget dans la sécurité au détriment de le mettre dans l'artistique ou ailleurs. Donc, voilà. Et donc, du coup, oui, on a été obligé de modifier. Mais ce que je voulais juste revenir par rapport à ta question sur l'hospitalité, c'est que du coup, dans la programmation de préavis même, on a prévu des temps, alors qu'on appelle, par exemple, je dis en parler, la soirée festoyée, c'est-à-dire que c'est inédit par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à préavis. C'est-à-dire que c'est une soirée, il y en a une à la Friche et une en ville, ou autour du thème de la nourriture, quoi, on dira, en gros. Il y aura des performances, bien sûr, mais on invite... Alors, les gens viennent avec un plat à partager. Et donc, l'idée, c'est que le public, voilà, il n'y a pas de droit d'entrée. Ça serait d'apporter un plat à partager. Et l'idée, donc, c'est d'organiser comme une sorte de soirée un peu banquet avec beaucoup festive, voilà. Et c'est un peu la même chose pour la soirée Night Shot qui est, alors là peut-être que je vais un peu plus loin dans tes...
c'est bien.
La soirée Night Shot, c'est une soirée aussi qu'on a conçue comme il y en aura une aussi à la Friche et une aussi en ville à la place Bargemont, donc qui est la place où on va à la place du Vieux-Port. C'est une soirée qu'on a conçu un peu comme une veillée. Donc le principe, on demande au public aussi d'apporter sa lampe de poche ou sa lampe de chevet, c'est encore mieux, et un coussin, et de faire une sorte de grande chambre à ciel ouvert. Et c'est l'idée donc toujours de partager des moments ensemble. Et là, ça sera autour de performances qui sont liées à la traduction de photos. Alors là, je ne sais pas si tu veux que je continue pour expliquer ce que c'est.
Mais on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, ce que je comprends là et ce qui semble s'affirmer, c'est qu'en réponse donc à cette peur de l'autre, à cette fermeture des frontières, etc., ce que vous proposez, c'est du temps ensemble, en commun, dans l'espace public. On peut manger ensemble, se parler, et c'est pas mal aussi.
Je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Déjà très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu.
Mais le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais, je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Mais moi,
le monde se demande assez justement ces jours-ci. La femme sur Radio Grenouille. Une émission aujourd'hui consacrée à la 11e édition du festival Préavis de désordre urbain. Je suis en très bonne compagnie. Christine Bouvier, Roche Dilaribi et Samuel Val cette fois-ci. Et non pas Wall. Où va le monde? Vous, vous y répondez avec une tour de Babel immense et un état d'urgence artistique que vous avez décrété, pour reprendre votre expression. Comment ça vous est venu et de quoi c'est parti et comment se traduit là cet état d'urgence artistique?
Comment ça nous est venu, l'état d'urgence artistique?
Oui.
Ah ben parce que, parce que ma petite dame, on vit dans un monde... Non, mais parce qu'on vit dans un, je veux dire, on vit dans un monde où évidemment, on est évidemment qu'on est conscient qu'il y a des, je veux dire, des, que le monde ne va pas bien, ça c'est clair, que le monde est chaotique, et mais qu'en même temps, il y a quand même une peur qui est entretenue, alors qui est entretenue, je dirais pas seulement par les médias, mais qui est entretenue de manière générale. Et c'est vrai que malgré tout, enfin moi je veux dire depuis 10 ans, en plus avec Préavis, moi je suis, enfin on est habitué à naviguer par tous les temps et en nos troubles souvent, pas toujours en nos calmes. Et donc voilà, on va pas baisser les bras et perdre le cap, je dirais, parce que à cause de cet état d'urgence dont on nous parle, qui est un état de fait, je ne le nie pas, c'est clair.
Mais c'est une thématique qui existe déjà chez vous depuis un moment, en 2015. Samuel Val, donc vous êtes l'auteur de ce livre, Préavis de désordre urbain, la performance à l'épreuve d'une ville, un livre donc qui revient sur les 10 premières années. On vous en souhaite au moins encore 10 x 10, Préavis de désordre urbain. Et donc il y a ce chapitre performance d'arrêt d'urgence 2015, donc il y a bien eu un turning point à un moment donné. C'était une année assez forte, j'imagine.
Oui, excusez-moi, je vous écoutais tout à l'heure, j'en avais pas l'air, j'étais en train de toucher l'ouvrage, de le sentir, parce que
sans le neuf,
l'encre est à peine sèche en fait, donc alors le média radio ne permet pas de, hein, y a pas l'odeur, ça y a quelques manques comme ça. Et mais chaque médium a ses limites. C'était la question d'écrire aussi sur la performance. C'est aussi peut-être limitatif. C'est-à-dire que comment parler, témoigner d'un acte qui convoque de telles intensités dans la présence, que ce soit à des niveaux infimes ou à des niveaux parfois plus spectaculaires, plus facilement partageables. En tout cas, l'envie était là, puisqu'on s'est rencontrés. Moi, j'aime à dire dans la rue, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et l'importance d'être dans cet espace public, c'est qu'on y vient parfois par hasard, et ça vient percuter des choses. Et moi, ça venait percuter ma compréhension de Marseille. La performance à l'épreuve d'une ville, on ne la cite pas dans le titre, mais il s'agit bien de Marseille. On ne la cite pas parce que cette ville est multiple et qu'elle pose des questions à l'espace urbain et à l'espace urbain contemporain d'aujourd'hui, pris dans les difficultés qu'a évoqué Christine Bouvier à l'instant, ces difficultés qui nous concernent tous à cet endroit de la rencontre. Et la force artistique, elle était là, moi, quand j'ai rencontré cet événement, cette équipe, ces artistes venus du monde entier. Ils témoignaient de ce Marseille multiple qu'on connaît, de ce Marseille accueillant. Et l'endroit dans lequel ils performaient, c'était une construction avec des grilles de chantier qui traduisaient une frontière. Et cette question de s'affranchir des frontières, qui était posée par le festival, me semblait particulièrement juste pour traduire à la fois la richesse de Marseille et ses frontières parfois invisibles, ce checkpoint qui se déplaçait dans la ville, cette frontière mouvante, se transformer par l'action artistique, par la performance, en un meeting point, en un lieu où on se retrouvait. Et voilà, et c'est là qu'on s'est effectivement trouvé et qu'on a eu envie de cheminer à rebours, puisque la performance initie des choses. C'est toujours un moment initial. Pour moi, c'était initial, puisque je l'ai rencontré en écrivant avec une revue, une nouvelle revue européenne, Archipel, qui se posait la question de ses circulations en Europe. On était là avec Christine Bouvier, m'a présenté Claudine Dussolier, sans qui cet ouvrage ne se serait pas fait, du laboratoire Transversité, qui elle-même initiait avec Christophe Barra une nouvelle maison d'édition, deuxième époque, suite à l'entretemps. Et Red Plexus, décidé par ce livre d'assumer pleinement sa dimension européenne depuis 10 ans, ses traversées d'artistes accueillis à Marseille et qui repartent ailleurs, ces échanges. Donc c'était triplement initial. Et on était dans cette frontière-là. Peut-on s'affranchir des frontières? Le livre en témoigne, en tout cas, par le récit. Voilà.
Une immense tour de Babel, donc, que vous avez concrétisé avec cette 11e édition du festival, que vous avez donc dessiné en 5 espaces. Et là, je vous attends pour nous expliquer 5 espaces. Un espace de l'oracle, un espace de la traduction, de l'identité, du festoyer, manger ensemble, donc, et un espace qui s'appelle le phare. Vous les avez... Et donc c'est comme ça que s'organise le festival.
Oui.
Avec des spectacles, en lien.
Oui. Oui. Donc, cette tour de Babel, effectivement, c'est un... pour ceux qui ont peut-être connu ou vu le checkpoint l'année dernière, c'est un peu dans l'esprit du checkpoint, mais à part que c'est plus le checkpoint, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que ça se présente comme une installation ouverte sur l'extérieur, évidemment, une installation dans laquelle le public peut rentrer, dans laquelle les performances se passent, dans laquelle toutes les soirées dont on a parlé, festoyer, night shot se déroule. Et c'est une sorte de presque de village ou de microcosme qui se déplace. C'est-à-dire que là, actuellement, là aujourd'hui, pendant que je parle, elle est en cours de montage sur la place des quais, là, à la friche La Belle de Mai, devant les grandes tables. Et après, elle va migrer. Elle va migrer en ville, donc sur la place Bargemont et puis sur la Canebière. Et effectivement, on l'a. Bon, cette tour de Babel, on a décidé de. Enfin, alors là, je vais laisser Rojdi, qui a beaucoup travaillé sur la scénographie avec des étudiants. On a une équipe d'étudiants en scénographie qui sont là depuis quelque temps avec nous et qui ont affiné beaucoup le dispositif. Donc, effectivement, on l'a. Enfin, elle n'est pas divisée, mais disons qu'il y a 5 espaces à l'intérieur de cette tour. Je te laisse les présenter.
Alors pour revenir là, d'abord le choix de la tour de Babel, il y avait cette idée de cette utopie finalement de vivre ensemble, en même temps qu'il y a cette utopie de vivre ensemble, historiquement il y a cette idée que la tour de Babel est toujours synonyme et associée à l'idée de chaos.
Et oui.
Donc ce désir de vivre ensemble et cette sorte d'impossibilité de vivre ensemble, et c'est ce qui nous a amené à réfléchir à ce concept de la tour de Babel. Sachant que quand on est revenu aussi beaucoup à la vision grecque de, finalement, de la cité, où à l'époque athénienne, pour devenir citoyen grec, il fallait être invité à une table d'un grec. Donc pour devenir athénien, il fallait manger à la table d'un athénien. Et on trouvait ça assez intéressant finalement dans cette époque où les frontières se déplace à toute vitesse, où en fait on voit que le chaos s'empare finalement de cette structure du monde, c'était de se dire comment moi je deviens finalement citoyen du monde et comment finalement l'art, à travers un certain nombre de propositions qui peuvent être des sortes de rituels, peut amener, réhospitaliser, redonner sens finalement à l'échelle planétaire, à se vivre ensemble. Donc cette tour de Babel a vocation finalement à inviter, à proposer des rituels qui sont des rituels d'hospitalité, des rituels d'immersion. Donc le festival, en fait, propose toujours presque à l'échelle d'une ville une performance collective d'immersion. Donc Préavis des ordres urbains, c'est une performance en soi, et c'est une performance qui immerge. Et donc on ne vient pas à Préavis des ordres urbains pour consommer telle ou telle proposition artistique, mais pour plonger, s'imprégner dans une sorte d'expérience quasi artistique et citoyenne qui, au fil des jours, peut nous transformer et dans lequel chacun peut inventer. Donc, à l'intérieur de la Tour de Babel, on s'est interrogé autour de 5 questions, donc qui forment les 5 aspects de la Tour de Babel. Il y avait l'idée, bien sûr, de la traduction. Quand on pense à Babel, on pense toujours aux différentes langues, et donc Dieu qui punit les hommes en détruisant la Tour de Babel et qui les disperse partout, de par le monde, et qui leur donne des langues différentes, qui va rendre quasiment impossible la compréhension. Donc nous, on s'est posé la question de traduire comment et traduire quoi. Donc dans l'idée de cet espace traduction, on s'est appuyé sur un certain nombre, finalement, de performances qui ont existé pendant les 10 ans. Donc on a, on va dire, choisi 10 performances, Christine s'irrite toujours quand je dis ce mot, mais emblématiques des 10 ans qui ont fait
non,
le...
Non, parce qu'elles ne sont pas emblématiques du tout. C'est un choix qui est très subjectif. Non, mais si, c'est vrai. C'est un choix qui est très subjectif. Moi, c'est vrai que ces 10 photos que j'ai choisies, c'est vrai que ça venait après... un moment où c'est lié au livre, parce qu'en fait, ça venait à un moment où j'avais... ouvert mes archives, et Rojdi aussi, on a ouvert nos archives forcément en discutant beaucoup avec Samuel. Et alors, je me suis rendu compte que ça avait fait remonter des photos, des images. Et donc c'est ces images-là. Donc c'est pas forcément... Moi, j'aime pas ce mot emblématique, parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas une performance plus qu'une autre qui est emblématique de Préavis des ordres urbains. Il y a simplement que ce sont des images qui sont remontées pendant ces 10 ans.
Mais je tiens sacrément en gueule, les roches.
Très bien. Alors donc, moi, j'assume complètement le terme emblématique. Donc on a choisi 10 photos de performances emblématiques dont l'idée, qu'on a à un moment donné instantanéisé à travers des grands tirages. Donc c'est des tirages 3 mètres sur 2. Et ce qui est proposé aux artistes, c'est d'en inventer la suite. Donc, chaque artiste part comme point de départ d'une image qui a été finalement, qui symbolise une performance, et il lui redonne une deuxième vie. C'était aussi l'idée des 10 ans de Red Plexus, et de Red Plexus, comme tu nous l'as souhaité avec beaucoup d'enthousiasme, qui est parti pour 1000 ans, donc en tout cas pour un an de plus, et qui va donc... Et donc l'idée de la traduction, c'est comment chaque artiste, en fonction de son univers, sa sensibilité, va interpréter, donc traduire d'une certaine manière, quelque chose qui a existé déjà dans le passé.
Ces fameuses photos qu'on retrouvera d'ailleurs tous les midis à l'antenne de Radio Grenouille dans leur traduction sonore, puisque voilà, en partenariat avec Préavis de désordre urbain, Radio Grenouille laisse une carte blanche mercredi, jeudi et vendredi à midi pile sur le 88.8, où les artistes donc s'empareront de l'antenne. On retrouvera vous-même Rojdi Larribi avec donc la compagnie Ornicar, Vladimir Delva qui présentera par ailleurs l'ananas pendant le festival, et Rebecca Chaillon, qu'on retrouvera, elle, pendant le festival avec sa performance à table des cartes blanches super dingues dans la radio.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. je ne me reconnais pas. Je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts là-bas, les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. C'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
Écoutez Radio Grenouille, une émission spéciale autour de la 11e édition du festival Préavis de désordre urbain. Alors Rojdi Larribi, est-ce que vous avez choisi la photographie dont vous allez nous faire une superbe et bien dingue, j'espère, traduction sonore en performance sur les ondes de la Grenouille, un de ces midis pour les midi perf?
Alors les photos, elles ont été tirées au sort, donc nous on en a tiré une au sort. Par contre, je ne suis pas encore complètement sûr que c'est celle-là que je vais faire sur Radio Grenouille, parce qu'en fait, on a tiré au sort une photo dans laquelle il y a un poisson. Et donc, ça sent très fort. Donc, je ne sais pas si le cadre de la radio est le plus adapté
Pour l'odeur,
pour
peut-être
devenir
pas
une
vraiment.
Sorte de poissonnerie. J'hésite encore sur le choix de la photo.
Ok, bon, en tout cas, si tel est le cas, j'ai bien hâte de vous revoir en poissonnier radiophonique. Bon, par ailleurs, avec la compagnie Ornicard, vous nous invitez à dîner et puis à veiller avec vous, c'est très très gentil, mais vous nous invitez à dîner dans une forêt de SMS, et ça, ce n'est pas très courant. Nous expliquer un petit peu.
Oui, alors tout à l'heure, vous me posiez, je reviens juste là-dessus, une question, quelles sont une performance réussie? En fait, moi, je peux dire qu'est-ce que j'aime, en fait, en termes de performance.
Ouais. Qu'est-ce que vous aimez?
Et ce que j'aime, c'est des performances dans lesquelles, en fait, on peut marier quelque chose d'un peu fou, une sorte d'exigence folle, et quelque chose d'être très accessible, et qui se termine souvent par une forme festive. J'aime que le public, finalement, devienne acteur d'une forme... assez baroque et festive à l'intérieur d'une performance. Donc nous, on fait un projet qui s'appelle Manger dans une forêt de SMS. Pourquoi? Alors, on s'était intéressé un peu à ce qui se passait autour des migrants. C'était qu'est-ce qui pouvait... quel est l'objet essentiel auquel se raccroche un migrant quand il traverse une frontière? Alors, on sait qu'avant, au Moyen-Âge, c'était dans chaque maison, en termes d'hospitalité, on avait toujours une assiette vide et que le voyageur, pressé par l'orage, même dans la nuit, pouvait frapper et toujours espérer avoir la dernière assiette qui lui permettait de se restaurer. Et puis après, il pouvait passer la nuit et au petit matin, il partait frais, dispo. Et on s'est posé la question, quelle est cette assiette contemporaine qui est l'élément vital du migrant? Et en réfléchissant, en disant et tout, on s'est aperçu que c'était le téléphone portable.
Donc pas tout à fait le même goût.
Pas tout à fait le même goût, c'est un objet particulier. Donc l'importance finalement de cet objet et ce qui nous a donné envie de travailler autour de l'idée du téléphone et des SMS. Et donc on s'est intéressé au flux, tous ces échanges, tout ce besoin de s'échanger et de cette technologie finalement qui va accompagner finalement cette transformation des migrants, cette transformation des frontières. Et donc l'idée c'était de se dire ben, on va faire des moments festifs juste sur les frontières. Donc on a invité les gens à venir manger sur la frontière au moment où tous ces SMS créent finalement une barrière dans laquelle on peut s'infiltrer pour passer la frontière. Donc voilà, donc on va inviter les gens à se rencontrer, se connaître. Alors dans ce repas, il y a des speed dating, des moments, des formes un peu cannibales de repas. Il y a le fait qu'on peut rouler sous la table après le repas pour s'échanger des secrets de famille. On peut apprendre à danser sur une table. Enfin, il y a tout un protocole en fait, en même temps assez intrigant et assez festif qui va entourer ces banquets.
Est-ce qu'on a perdu le sens de l'hospitalité selon vous?
En tout cas, selon moi, il faut le réinventer. Clairement, il faut le réinventer. Et donc, il faut transcender l'idée de la peur de l'autre. Il faut que l'autre devienne finalement une source d'inspiration plutôt qu'une source de répulsion.
Nous allons faire la fête, j'ai l'impression, en remède, pendant ce festival préavis de désordre urbain. Alors nous pourrons également honorer la table avec Rebecca Chaillon, qui aime littéralement manger vrai et manger beaucoup. On l'a vu dans différents spectacles, j'ai en tête notamment les cannibales, où elle dévore sa partenaire, et puis dans Monstre d'amour, où elle mange aussi beaucoup, beaucoup. Un projet de rôle sensuel et un peu perturbant quand même. Et donc là, elle revient pour le festival avec À Table. Christine, je pense que vous pouvez nous en dire deux mots. C'est, à mon avis, un grand moment de gastronomie. Ouais.
Oui, ben je pense pas que je puisse en dire trop de mots parce qu'en fait je sais que c'est voilà c'est les créations que tu as citées, c'est les deux créations que j'ai vues qu'elle a fait. Oui. Moi c'est quelqu'un, Rebecca, que j'aime beaucoup en tant que personne et puis en tant qu'artiste, que j'ai déjà vu à Paris plusieurs fois et qui a une forme de générosité aussi artistique et donc là à table voilà à table je sais qu'elle je pense qu'elle veut se transformer en table, elle veut voilà, elle veut que les gens se mettent à table sur elle, avec elle. Mais quand je l'ai vue la dernière fois en juillet, elle était en cours de voilà, c'est un projet du coup j'en profite pour parler un peu du fond de préavis, mais dans préavis ce qui m'intéresse c'est d'inviter des artistes, alors comme Rebecca par exemple qui que j'invite parce que je sens par rapport à cette édition, qu'elle a quelque chose à dire et qu'elle va le dire et que voilà et que artistiquement ça va être intéressant et en même temps là elle va vraiment créer quelque chose de nouveau donc je peux pas vraiment en parler même si
première mondiale
voilà et puis il y a aussi des artistes et ça c'est une des particularités de Préavis qui viennent avec un projet qu'ils ont déjà expérimenté ou alors qu'ils ont expérimenté il y a longtemps ou qui n'a plus raison et qu'ils peuvent venir revisiter dans Préavis et explorer autrement. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse, nous, en tant qu'artistes, beaucoup, et puis qui intéresse, du coup, les artistes. C'est-à-dire l'idée de, finalement, d'explorer autrement et de resculpter un projet qui existe déjà. Voilà.
Bien. Il y a d'autres artistes, il y en a plus que deux. Hein.
Heureusement, oui.
Une bonne dizaine qui viennent d'un peu partout, du Brésil, de Haïti, de Belgique, des Pays-Bas, du Cameroun. Est-ce qu'il y a encore, bon, c'est un peu long peut-être de dérouler toute la programmation puisqu'elle est très très riche, peut-être aller mettre un coup de projecteur sur une ou deux performances en plus en cours de répétition, de création. Pour certaines, on les voit friche de la Belle de Mai, on vous voit expérimenter des choses un peu toute la journée, on voit passer des bouts de Tour de Babel dans un sens et dans l'autre.
Oui, alors c'est vrai que la tentation, ça serait presque de parler de tout le monde, parce que évidemment, si ce qui est intéressant, forcément, je veux dire, je pense que tous les artistes qui sont là font sens dans cette 11e édition, évidemment. Alors, je pourrais citer, par exemple, Benoît Rassouf, lui, qui va proposer, lui, un sauna urbain. Donc, lui, il travaille depuis... ça fait quelques années déjà qu'il travaille sur ce concept de sauna qu'il développe. Et donc là, l'idée, c'est un sauna... parce que Benoît Rassouf est plasticien à la base. Et donc, c'est un sauna qu'il a construit lui-même, qui est un vrai sauna, c'est-à-dire, c'est un sauna ambulant, donc, mais dans lequel, effectivement, on peut vraiment venir, avec une chaleur très forte, et avec donc un côté festif autour.
Il sera où ce sauna-là?
Alors, ce sauna ne sera pas à la Friche, malheureusement, mais il sera sur la place Bargemont, normalement, vendredi soir, et dimanche soir sur la Canebière, dans la journée, sur la Canebière, pour les dimanches de la Canebière.
Parfait, on pourra donc aller se tremper artistiquement en plus.
Et puis après, je voudrais juste parler d'un autre artiste. Alors lui, c'est Stan Brich, c'est assez intéressant parce que c'est un danseur, chorégraphe-danseur, qui vient de Paris et qui en fait a vécu sur l'île de Lesbos pendant pas très longtemps, mais pendant 3 semaines, il faisait partie d'une ONG qui recueillait des migrants. Et donc, ça a été une expérience très, très forte, qui accueillait des migrants, une expérience très forte pour lui, avec des hauts et des bas. Et il a tenu un journal de bord sur Facebook pendant ces 3 semaines, qui a été repéré par un éditeur et qui en a fait un livre. Et donc, lui, par exemple, a répondu à l'appel à projet cette année en disant que préavis, pour lui, tombait à pic parce que depuis que ce livre était sorti, il avait envie de donner corps à ce projet, c'est-à-dire de lui donner une forme chorégraphique ou performative, mais qu'il n'avait pas trouvé le contexte pour. Et donc là, il m'a demandé si... Voilà, donc en fait, alors... Là, il va travailler peut-être avec des jeunes migrants s'il y en a vraiment qui viennent. Sinon, il travaille avec des gens donc de Marseille qui peuvent venir faire des workshops avec lui pour participer à sa performance.
Nous sommes tous invités à venir s'immerger dans ce préavis de désordre urbain. Nous aussi dérangeons, perturbons l'espace public, secouons un peu toutes nos idées reçues. Amusons-nous. Merci beaucoup d'être venu faire un tour sur les ondes de Radio Grenouille. Vraiment, merci beaucoup. On se retrouve dans la semaine avec les Midi Perf, tous les midis sur Radio Grenouille, pour des cartes blanche donnée aux artistes du festival, traduction sonore de photos des éditions précédentes de Préavis de désordre urbain, des performances radiophoniques. On se retrouve aussi partout dans la ville jusqu'au 24 septembre dès demain soir, mercredi soir. Friche de la Belle de Mai, juste à côté donc des grandes tables avec l'ouverture. Il y aura aussi la présentation du livre Préavis de désordre urbain, la performance à l'épreuve d'une ville.
Également la semaine d'après, mardi 19, à la librairie Galerie L'Histoire de l'œil à Notre-Dame-du-Mont.
Toutes les infos sont sur le site internet de Red Plexus, c'est ça, www.redplexus.org. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup d'écouter Radio Grenouille. Très bel après-midi à vous.